Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de Montalembert. C'est l'une des plus grandes figures du catholicisme du siècle dernier. C'est le comte Charles de Montalembert, un homme politique français, qui est né à Londres, toutefois, à cause de la Révolution française, qui est mort en 1870. Dans la revue Esprit, cette excellente revue, c'est un très vieux numéro que j'ai en main du 1er juin 1945. Il y a un très bel article sur Montalembert où la liberté quand même, par Emmanuel Mounier, pas n'importe qui Emmanuel Mounier, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, le 22 mars 1996. Et alors il dit au début de son article quelque chose de très important que je mets en exergue à cette émission et qui vous donnera, j'espère, le goût d'écouter cette émission sur Montalembert. Malheureusement trop peu connu. Emmanuel Mounier écrit « Montalembert est d'abord pour nous un des rares hommes qui est porté, qui a été le drame vivant de la liberté dans le monde moderne. Le drame total de la liberté, avec ses enthousiasmes, avec ses déceptions, avec ses découragements. Ce drame fut sa chair même. Si bien que l'on a tout dit de lui, quand on en a suivi l'histoire dans son œuvre et dans sa vie, et tout dit de la liberté en exposant l'une et l'autre. » Oui, c'est Emmanuel Mounier qui dit ça de Montalembert. Qui est ce Montalembert? Eh bien, Charles Forbes. Forbes, c'est le nom de sa mère, ce F-O-R-B-E-S. Il y a déjà eu un évêque à Montréal qui s'appelait Forbes au siècle dernier. Charles Forbes René de Montalembert est né à Londres, comme je vous ai dit, le 15 avril 1810. Son père, le comte Marc René de Montalembert, appartenait à cette lignée qui remonte facilement au 13e siècle, une vieille famille noble. Et son père avait dû, à l'âge de 15 ans, se réfugier en Angleterre en 1792, au moment de la Révolution. Il n'est rentré en France qu'avec le roi Louis XVIII, quand on a restauré la royauté en France. Son exil avait duré 22 ans en Angleterre. Et dans l'intervalle, vers la fin de 1808, il a épousé Élise Renée Forbes, qui se rattache à l'une des plus vieilles familles d'Écosse. Donc, le comte Marc René de Montalembert, rentré en France avec son roi, Louis XVIII, reçoit en récompense, évidemment, de ce roi, à cause de sa longue fidélité, le grade de colonel, la croix de Saint-Louis et celle d'officier dans la Légion d'honneur. Bon, c'est bien des décorations, pour ce que ça vaut, les décorations, hein, soit dit entre nous. Après diverses missions militaires et diplomatiques, le père de notre Montalembert, dont je vais vous parler aujourd'hui, est nommé au mois d'août 1816, à 39 ans, ministre plénipotentiaire à Stuttgart. Ministre plénipotentiaire, ça veut dire, disons, un agent diplomatique qui est juste inférieur à celui d'ambassadeur. Il est envoyé à Stuttgart, en Allemagne, où son fils Charles, notre Charles, va le rejoindre en 1819, à 9 ans, quoi. Cependant, le grand-père écossais, Forbes, s'est chargé de l'éducation de son petit-fils, qu'il place d'abord à l'école de Fulham, sur les bords de la Tamise, en Angleterre. Mais le comte de Montalembert, il veut que son fils devienne un vrai Français avant tout. Alors, après une entrevue avec ses parents à Stuttgart, Charles entre au lycée Bourbon, où il se familiarise avec le français, qu'il n'a pas tellement bien appris. Il va devenir un très grand orateur français, un écrivain français. Il va écrire des choses fabuleuses. C'est lui qui a écrit les fameux « Les moines d'Occident » en 7 volumes. Hein? Alors, il contribue, même s'il est bien jeune, à la conversion de sa mère, qui est née anglicane. Même si elle était écossaise, elle était anglicane plutôt que méthodiste. Hein? Et elle fait son abjuration solennelle entre les mains du cardinal de Latil en 1822. Elle devient donc catholique. Et le petit, bien, il a 12 ans seulement. L'année suivante, Charles fait sa première communion à Saint-Thomas-d'Aquin, à Paris, dans les sentiments de joie, puis de piété extraordinaire. Et ce jour-là, il écrit dans son journal, c'est assez étonnant pour un enfant, « Pour la première fois, j'ai compris qu'il pouvait être doux de mourir. » On voit par de pareils mots qu'il est très précoce. Et il y a une mystique profonde chez lui. Il y a une véritable fièvre de travail qui s'empare de ce jeune garçon. Il dévore les livres de toutes sortes, il en transcrit les plus belles pages, puis il nous donne son avis même sur des auteurs anciens comme Tacite, ensuite sur Corneille, sur Racine, sur Shakespeare, les grands auteurs, etc. Et en 1827, bon, mais il a 17 ans, son père est nommé ministre plénipotentiaire, justement, à Stockholm cette fois-ci. Mais on décide que Charles va faire sa rhétorique au fameux collège Sainte-Barbe à Paris. Là, il a pour camarade Victor Duruy, qui va devenir un historien membre de l'Académie française, Désiré Nizard, qui va devenir un critique, qui écrira une histoire de la littérature française et qui sera membre de l'Académie française aussi. Comme vous voyez, ces grands noms disparaissent dans l'histoire. Les gens s'imaginent devenir très importants parce qu'ils sont membres de l'Académie française et on les oublie complètement. Les honneurs, ça dure pas longtemps. Les saints, durent. Alors, notre Montalembert connaît surtout Léon Cornudet. Cornudet, c'est un élève de philosophie qui devient son meilleur ami. Alors, ils communient tous les deux dans leur foi catholique profonde. Et ils forment un groupe à part. Les lettres à un ami de collège que Montalembert va publier témoignent de la profondeur puis de la sainteté même de leur amitié. Quatre grandes passions les dominent tous les deux, les plus hautes qui puissent faire battre le cœur humain de jeunes hommes. Dieu et son Église, la France et la liberté. Vous direz que c'est dépassé. Mais pourquoi on ne pourrait pas dire Dieu et son Église ici au Québec, puis le Québec et la liberté? Pourquoi qu'on ne pourrait pas dire ça? Alors, ou le Canada et sa liberté, si vous préférez. Qu'il serait beau, dit son ami Cornudet, de montrer que la religion est la mère de la liberté. C'est là le fondement de leur pensée. La religion est la mère de la liberté. Lorsque Léon Cornudet achève sa philosophie, bien les deux jeunes gens se séparent, mais avant de se quitter, l'idée leur vient de prendre devant Dieu un engagement solennel de fidélité. Ils ont en main une poésie, j'appelle les probatines, c'est-à-dire les demi-frères, où deux amis s'enchaînent pour la vie l'un à l'autre par un serment religieux. Ça, ce poème les enthousiasme. Et alors, ils font la même chose. Et après avoir communié ensemble à l'église, Montalembert rédige, et tous deux signent ce pacte, qu'on ne peut relire sans émotion, d'ailleurs. Charles de Montalembert passe le mois de septembre 1827, donc il a 17 ans, à la Roche-Guyon, au château des Rohan, grand château important, où il rencontre le Marcy et l'abbé Dupanloup, qui va devenir Monseigneur Dupanloup, dont je vous parlerai un jour. Et son journal contient la liste des lectures qu'il y fait dans ce château. C'est une liste capable de décourager les lecteurs les plus acharnés. Il lit, il lit, il lit. Et puis, de retour à Paris, Charles de Montalembert présente le Marcy là, à son meilleur ami Cornudet et à Rio, professeur à Louis le Grand, Rio, R-I-O, professeur à Louis le Grand qui va le marquer. Il conçoit l'idée d'une association de jeunes gens, d'une espèce de congrégation libérale. Disons, il se veut un catholique libéral qui lutte pour la liberté. Donc, une espèce de congrégation libérale, écrit-il, formée par tous ceux qui regardent la religion comme nécessaire à la liberté et la liberté comme nécessaire à la religion. C'était très audacieux à cette époque. On ne pensait pas comme ça en général. Exemple, Louis Veuillot ne pensait pas comme ça. En août 1828, à 18 ans donc, il subit avec succès devant messieurs Guizot et Villemain, deux professeurs importants, l'épreuve du baccalauréat. Et Montalembert passe en Suède, auprès de son père, qui est là à Stockholm, ministre plénipotentiaire. Il passe l'année 1829 en Suède. En 1830, donc à 20 ans, il se retrouve à Paris, où il suit les cours justement de Villemain et de Guizot, puis il entre en relation Avec le fameux cousin, avec Alfred de Vigny, avec Sainte-Beuve, avec Lamartine et Victor Hugo. Victor Hugo, oui, je vous ai fait une émission sur Victor Hugo le 22 mai 96. Je le signale, il y a des gens que ça intéresse. Victor Hugo, parce qu'on peut obtenir les cassettes. Victor Hugo, qui prépare son roman Notre-Dame de Paris, lui inspire le goût de l'architecture du Moyen-Âge et particulièrement de l'art gothique. Vous savez que c'est Victor Hugo qui a redonné le goût à l'art gothique qu'on avait perdu. Alors vient d'apparaître le journal Le Correspondant en mars 1829 et on trouve sur la première page les mots de l'anglais Canning, « Liberté civile et religieuse par tout l'univers » sont enlacés comme dans un écusson en tête du journal qui est comme une revue aussi. Ça lui sert de devise. Alors l'idée de réconcilier le catholicisme puis les idées modernes, c'est de celle qui passionne Montalembert, ce tout jeune Montalembert. On comprend qu'il a tout de suite donné à ce journal Le Correspondant plusieurs articles. Il a à peine 20 ans, oui, à peine 20 ans, c'est un garçon extraordinaire. Et lorsqu'éclate la fameuse révolution de juillet, là, qui est dirigée contre Charles X, le roi Charles X, Montalembert est déçu par les excès des libéraux. Des gens qui souhaitent la liberté. Il est déçu de leur attitude. L'œuvre du fameux révolutionnaire irlandais O'Connell, Daniel O'Connell en Irlande, lui paraît infiniment plus intéressante. Hein? Il part donc pour l'Irlande et visite le grand patriote qui souhaite la liberté de son pays en septembre et octobre 1830. Mais bientôt, la situation de la France le rappelle dans son pays. Et comme Lamennais, dont je vous ai parlé aussi, le fameux Félicité Lamennais, l'abbé Félicité Lamennais, vient de fonder l'Avenir, Montalembert rêve d'y collaborer. Sa première visite, là où réside Lamennais, ça s'appelle Lachenay, là où, quand il va à Lachenay, ça le met en contact donc avec le père Lacordaire qui fréquente aussi Lamennais. Le fameux père Lacordaire qui va rétablir les Dominicains. Je vous en ai déjà parlé aussi, c'est toutes des émissions passées, ça. De là, une amitié nouvelle qui va durer jusqu'à la fin de sa vie. Puis Montalembert et Lacordaire sont bien faits pour s'entendre. L'émission sur Félicité de Lamennais, si ça vous intéresse, c'est un peu spécial, parce que c'est un prêtre qui a quitté l'Église. Je l'ai faite le 27 février 97, il y a un an. Alors, le lien qui unit Montalembert à Lamennais, c'est celui qui unit un fils à son père, à un vrai bon père. Mais sa tendresse n'obscurcit pas sa clairvoyance quand même sur ce Lamennais. Il voit que l'insoumission plus ou moins déclarée de Lamennais à l'autorité du pape risque de finir mal. Et il met tous ses soins à prévenir ce malheur. Et Lacordaire, qui a rejoint Lamennais là, à Lachenay, après son retour de Munich, est plus clairvoyant encore. Persuadé que Lamennais va sombrer dans une sorte d'orgueil de ses idées politico-religieuses, sur lesquelles il avait bien raison sur bien des points, qui sont, semble-t-il, une menace à la fois pour l'Église. C'est comme ça. On voyait Lamennais comme une menace pour l'Église et pour l'État. Bien, Lacordaire prend parti de quitter Lamennais, puis cette rupture irrite profondément Montalembert, qui voyait dans un pareil abandon de son, comme il dit, de son père tendrement aimé, une véritable trahison. Alors, la correspondance qu'il échange alors avec le père Lacordaire et avec l'abbé Lamennais est un peu spéciale. Hein? Et nous verrons plus tard comment tout ça va se dérouler et finalement comment Montalembert va sortir de tout ça comme fidèle à l'Église, mais un homme habité du désir de liberté. Alors, le jeune Montalembert, qui a énormément d'admiration pour l'abbé Félicité de Lamennais, qui est un homme audacieux, qui ne se gêne pas, pour exprimer ses idées profondes et selon sa propre conscience, eh bien, il arrive que dans la réponse de Lamennais au pape sur l'encyclique Mirare Vos, après avoir marqué la distinction qu'il établit entre le pouvoir spirituel du pape et des choses d'ordre temporel, il déclare qu'il se considère comme indépendant dans l'ordre temporel. Et Montalembert voit de quel péril son père, son bien-aimé père, est menacé. C'est-à-dire que le pape avait, à ce moment-là, je vous explique, des états immenses dans la péninsule de l'Italie. Une grande partie de l'Italie dépendait du pouvoir temporel du pape. C'est Cavour, qui va enlever au pape ses possessions immenses pour réunifier l'Italie, et on laissera finalement en 1930 sous Mussolini au pape le petit État du Vatican qui suffit à mon sens à un pouvoir spirituel. Pourquoi le pape aurait-il d'immenses terres? Il est vrai que la plupart des gens, paraît-il, qui habitaient ces terres immenses étaient heureux de voir le pape comme leur chef d'État. Mais ça, c'est une autre question. Alors, Montalembert supplie Lamennais de se soumettre absolument au pape. Lamennais cède, mais de manière un peu déconcertante, en même temps qu'il adresse au pape Grégoire XVI une lettre de soumission absolue, en 1833, il renonce, dit-il, à tout, sans excepter ce qui a rempli ma vie antérieure. Donc, ça va, mais c'est ce qu'il écrit dans une lettre à Montalembert. Mais comme Montalembert est intrigué par le langage, il demande une explication. Puis, finalement, Lamennais est découragé. Il dit « Je me suis décidé à cesser désormais toute fonction sacerdotale. » Alors, c'est comme s'il défroquait. Et c'est en 1834, Montalembert n'a que même pas 24 ans encore. Et Montalembert est atterré. Mais il ne désespère pas encore complètement. Puis il essaie d'empêcher Lamennais de publier les paroles d'un croyant, cet ouvrage très, très, très important. Alors, il a beau discuter avec Lamennais, rien ne faire. Et l'ouvrage, Les paroles d'un croyant, sont frappés par une encyclique en 1834, condamné. Montalembert supplie ardemment son maître et père de se soumettre, mais Lamennais refuse obstinément de le faire, sa conscience le lui défend. Et c'est alors que Montalembert, découragé, adresse une dernière supplication à celui qu'il voit tomber dans l'abîme, comme il dit, de la rébellion. Puis il réfute son geste, le geste antichrétien de Lamennais. Il voit dans Lamennais un autre Luther. Il ose le lui dire en toute confiance, puis en toute affection, en 1834. Hein, il a 24 ans, il est jeune, il a de la difficulté à comprendre Lamennais. Aujourd'hui, on sait que Lamennais, s'il avait vécu aujourd'hui, il serait reconnu extraordinaire, car ses idées étaient trop en avance sur son temps. Pour toute réponse, bien Lamennais invoque l'autorité de sa conscience, voyez-vous, qui ne peut plier devant l'autorité du pape, de ce pape devant lequel il voulait quelques années auparavant faire plier toutes les consciences, car il admirait beaucoup la papauté. C'est le déchirement d'un catholique, c'est terrible l'histoire de Lamennais. Et le 8 décembre 1834, Montalembert envoie au cardinal Pacca, qui l'en félicite au nom du souverain pontife, un acte catégorique de soumission aux deux encycliques. Lui, Montalembert se soumet aux deux encycliques. Et à partir de cette date, les relations épistolaires entre Lamennais et son disciple Montalembert se font plus rares. La séparation augmente chaque jour et finit par amener la séparation totale. Puis le 30 janvier 1835, bon, il n'a même pas 25 ans, Montalembert écrit encore, c'est dans le style de l'époque, hein, c'est l'époque romantique, « Adieu, mon bien-aimé père, je vous sers contre mon cœur et je prie sans cesse pour vous. » L'avant-dernière lettre de Lamennais est de 1836, l'année suivante. À la date, donc, du 14 juillet, un dernier billet, très court. C'est un billet, cette fois-ci, très froid, sur lequel Montalembert a écrit ces mots. C'est écrit la dernière. Et ce fut tout. Leurs échanges sont terminés. Les deux grands amis ne se reverront plus jamais. Alors, Montalembert recherche et trouve des consolations dans ses premiers écrits, puis dans un mariage, dans un voyage à Rome aussi. On se rappelle que Montalembert, je vous l'ai dit tout à l'heure, avait pris auprès de Victor Hugo le goût de l'art gothique chrétien. Bientôt, c'est extraordinaire ce qu'il va faire. Écoutez bien, c'est son irritation contre la bande noire, il l'appelle comme ça, la bande noire, qui ravageait les monuments religieux. Vous savez que L'abbaye de Cluny a été ravagée à cette époque-là, vers 1827-29. Ce monument était toujours là, le plus grand monument gothique de l'église. Mais ça a été ravagé pierre par pierre, ça a été vendu pierre par pierre. Le gouvernement français a laissé faire ça. Alors ça ravageait les monuments religieux, ça ne connaissait plus de bornes. Et après de sérieux voyages, Montalembert constate les méfaits de ceux qu'il appelle des vandales. Il adresse à Victor Hugo sa lettre sur le vandalisme en France. C'est retentissant. C'est le 1er mars 1833. Vandalisme destructeur et vandalisme restaurateur, écrit-il, parce que on restaure des choses, mais on détruit pour restaurer, comme on a fait dans bien des églises ici au Québec après le Concile Vatican II. Et parmi les vandales destructeurs, je pense à l'église Sainte-Madeleine d'Outremont où j'ai été baptisé, où on a peint toutes les fresques de Guido Ninkiri, sauf une. C'est incroyable. Parmi les vandales destructeurs, ils placent au premier rang le gouvernement, puis les maires, puis les conseillers municipaux, les propriétaires, les conseils de fabrique et les curés, puis enfin l'émeute, comme il dit. Viennent ensuite les vandales réparateurs, là, ceux dont je viens de vous parler, qui réparent les églises, mais qui saccage les choses. Heureusement, c'était arrêté par l'archevêché ici. Il y a un conseil. L'abbé Turmel s'occupe de ça ici. Et, bien sûr, les vandales réparateurs, là, ben c'est le clergé, les conseils de fabrique, le gouvernement, les conseils municipaux, puis les propriétaires. Il dit « L'émeute a au moins l'avantage de ne rien restaurer. » Alors, la lettre de Montalembert soulève l'opinion publique. Ça ranime en France le sentiment puis le goût de l'art chrétien. C'est heureusement, grâce à lui et à Hugo, on a sauvé beaucoup d'œuvres gothiques. Alors, elle opère une nouvelle renaissance. Et lorsqu'il reprend plus tard, en 1838, là, il n'a que 28 ans, sa campagne contre le vandalisme au moyen de ses brochures, comme « De l'état actuel de la religion en France »,« De l'attitude actuelle du vandalisme en France », la cause est gagnée. Il a gagné. Dès 1837, les chambres, les députés, là, ouvrent un crédit pour la guerre contre les vandales. Et le gouvernement a créé le Comité historique des arts et des monuments. Et c'est aussi sur les instances de Montalembert que le Rio, son professeur, la Louis le Grand, achève son ouvrage de l'art chrétien, qui est un vrai chef-d'œuvre pour l'époque. Alors, on doit beaucoup à Montalembert, comme vous voyez. Un voyage en Allemagne en 1833 fournit à Montalembert l'occasion de produire une œuvre plus belle encore, si on peut dire, c'est sa vie de Sainte-Élisabeth de Hongrie. Et il passe par Marbourg, où c'est un évêque luthérien, le docteur Just, qui lui remet une brochure sur Sainte-Élisabeth, chose étrange. Le sujet l'enflamme, puis il en fait une sorte de poème. Il va rénover la géographie, c'est-à-dire les vies de saints. Aujourd'hui, les questions de Montalembert. Un écrivain, un homme politique. Et justement, je voulais vous signaler que dimanche, dans 2 jours, je présenterai au Centre Unitas Michel Tournier et Gilbert Cesbron dans des entrevues qu'ils nous avaient accordées à Radio-Canada dans la série Rencontres. Et ce sera présenté sur grand écran au Centre Unitas sur l'avenue des Pins. Il sera question donc de Michel Tournier qui nous parlera de la vie qui est faite d'absolu. On a dit de lui qu'il était le plus grand romancier français de l'heure. Et puis Gilbert Cesbron, le grand écrivain, aussi catholique comme l'autre. Un testament spirituel, c'est ce qu'il nous livrera. Il est l'auteur de grands romans succès comme Chien perdu sans collier, n'est-ce pas, Les saints vont en enfer. Il est décédé en 1979, c'est un testament spirituel. C'est donc à 2h30 au Centre Unitas, qui est au 1475 Ouest Avenue des Pins. Vous pouvez toujours obtenir des renseignements là-bas, au 849-2728. 849-2728. Je reviens donc à Montalembert. Je vous ai dit tout à l'heure que Montalembert avait entrepris l'histoire de Sainte-Élisabeth de Hongrie. Et lorsqu'il rentre à Paris le 23 décembre, l'avant-veille de Noël 1835, son histoire de Sainte-Élisabeth est presque achevée. Elle ne paraît pourtant qu'en juin de l'année suivante. Et c'est une ère nouvelle pour l'époque qui s'ouvre pour les vies de saints, pour la géographie, comme on dit. Telle qu'elle se présente, l'histoire de Sainte-Élisabeth dépasse toutes les vies de saints connues. Elle offre un modèle à ceux qui écrivent des vies de saints, des hagiographes futurs. Son succès est immense. Mais cependant, tant Lambert ne parvient pas à dissiper la tristesse de ses pensées quand il pense à Lamennais. L'image de Lamennais le suit partout. Or, c'est la petite fille même de Sainte-Élisabeth, chose étrange, Marianne de Mérode, qui va lui donner ce dont il a rêvé toute sa vie, le bonheur dans l'amour chrétien. Leur mariage est célébré le 16 août 1836 par Mgr Gerbet et le 6 septembre suivant, ces deux jeunes époux partent pour Rome. Ils y arrivent la veille de Noël. Ils sont reçus par Lacordaire, le père Lacordaire, qui écrit alors sa fameuse lettre sur le Saint-Siège et qui se prépare à restaurer en France l'ordre de Saint-Dominique, les Dominicains, comme vous savez. Le principal événement de ce voyage, c'est pour lui la triple audience accordée à ces deux jeunes pèlerins par Grégoire XVI. Montalembert écrit au pape pour protester contre les affaires de Rome que vient de publier Lamennais. Grégoire XVI se montre fort touché et très satisfait de cette lettre. Et dans les différentes entrevues qu'il a avec l'auteur, avec Montalembert, le pape déclare que le clergé ne devrait pas se mêler de politique et donne quelques conseils politico-religieux qui ressemblent à la direction que Léon XIII va s'efforcer plus tard d'imprimer à l'Église de France. On a pu voir ici notre cardinal qui ne s'est pas mêlé de politique, mais qui a tout simplement dit que le procès qui se déroule devant la Cour suprême était, pour ainsi dire, inutile. C'est pas exactement ce qu'il a dit, mais enfin, ça revenait à ça. Oh là là, il s'est fait taper dessus par des gens de toutes sortes, alors qu'il avait parfaitement, me semble, raison de se prononcer en tant que citoyen. Il devrait avoir le droit, c'est même pas de la politique. Et Montalembert se dévouera désormais, de toute façon, grâce à l'appui du pape, à travers des luttes sans nombre, à la défense de l'Église, mais aussi à la conquête de ses libertés essentielles et de la liberté tout court. Montalembert, donc, part à la conquête de la liberté de l'enseignement. Napoléon Ier avait établi un monopole de l'instruction publique. Il avait créé ce qu'on appelle l'université, tout était laïcisé. La restauration de la royauté, avec, comme on l'a vu, Louis XVIII, là, avait conservé cette grande machine universitaire. Mais il y a une charte en 1830 qui promettait la liberté de l'enseignement. Et Montalembert s'arme de cette promesse pour attaquer le monopole de l'université athée. La lutte est longue et vive. Les esprits libéraux, arrivé au pouvoir, refuse la liberté, un peu comme ici. Les projets, pour satisfaire les catholiques, ne peuvent qu'échouer. Alors Montalembert, obligé de conduire sa femme malade dans l'île de Madère, près de l'Espagne, lance son manifeste du devoir des catholiques dans la question de la liberté de l'enseignement. Il a 35 ans. Ça date du 1er décembre 1843. Alors là, l'effet produit par cette brochure du devoir des catholiques dans la question de la liberté de l'enseignement, c'est immense, le succès est immense. L'épiscopat proteste à son tour contre le monopole de l'université par la plume de Mgr Affre, qui va être assassiné plusieurs années plus tard là, sur les barricades. Et 56 évêques s'associent à la protestation de l'archevêque de Paris. On croit devoir proposer à la Chambre des députés un second projet contre lequel proteste de nouveau l'épiscopat tout entier. On réclame des poursuites contre les évêques, finalement. Montalembert est là qui écoute. Et le 16 avril 1844, à la Chambre des pairs, il prend les anticatholiques à partie, puis il défend les évêques avec une éloquence qu'il n'a jamais dépassée. Vous parlez de faire des lois implacables, dit-il, pour exprimer notre audace. Eh bien, faites-le. Nous ne les redoutons pas. Nous sommes habitués. On a essayé le schisme en 1791. On a essayé l'échafaud en 1792, les déportations en 1797, des prisons d'État en 1811, et rien n'a prévalu contre nous, catholiques. Il s'agit non d'une question de parti, messieurs, mais d'une question de conscience. La conscience est hors d'atteinte des légistes, et vous n'êtes pas de taille à vaincre dans une lutte qui n'a porté bonheur ni à Mirabeau, ni à Robespierre, ni à Napoléon, qui sont tous disparus, n'est-ce pas? Il ajoute, « Nous ne sommes pas à craindre pour vous, mais nous ne vous craignons pas. » En somme, il ne les menace pas, mais il est prêt à tout. Il ajoute au milieu d'un peuple libre, « Nous ne voulons pas être des esclaves. Nous sommes les successeurs des martyrs. » Lorsque Louis Bonaparte est devenu président de la République, après avoir proclamé en 1848 que la protection de la religion entraîne comme conséquence la liberté d'enseignement, lorsqu'en somme Louis Bonaparte a eu formé plutôt un ministère où on accepte l'instruction publique puis les cultes, la cause de la liberté est à peu près gagnée. Alors on propose un projet de loi où l'Église est associée à l'État pour les trois degrés de l'enseignement public, là. Les plus jeunes, les moyens, puis les plus âgés, les universitaires. L'enseignement secondaire, par exemple, est proclamé libre. C'est écrit « Tout Français âgé de 25 ans ou moins pourra former un établissement d'instruction secondaire ». Alors, la loi, votée en 1850 par 400 voix contre 237, quel triomphe pour Montalembert, écrit un de ses historiens. Une certaine opposition catholique ne désarme pas pour autant. Pie IX félicite les auteurs de la loi, puis demande aux évêques de l'accepter, mais Montalembert fait alors un nouveau voyage à Rome et le pape et les cardinaux comblent d'honneur l'orateur catholique. Il est créé citoyen de Rome. Et Montalembert comprend vite où aboutira la politique de Napoléon III, dont il se méfie. La liberté de la presse et la liberté de l'Église en feront les frais. Louis Veuillot, qui est d'extrême droite et qui dirige l'univers, applaudit à cette politique sans voir où elle va le conduire. Pour l'avoir attaqué, il a attaqué Veuillot, Montalembert. Montalembert est condamné à un mois de prison en 1858. Puis là, la politique extérieure intéresse Montalembert, autant que la politique intérieure. C'est un homme politique vaste. Les affaires de Rome, surtout, où la question religieuse est engagée, tenait son esprit et son âme en éveil, on pourrait dire, et le libéralisme qui a marqué les débuts du pontificat de Pie IX n'a fait qu'aviver le mouvement révolutionnaire contre le pouvoir temporel immense du pape, dont je vous ai parlé tout à l'heure, cet immense pouvoir temporel du pape. Et Napoléon III laisse faire le Piémont, la région du nord de l'Italie, là, qui s'empare des Romagnes et bientôt abandonne Pie IX. Parce qu'il y avait des territoires jusque-là, jusque dans le nord de l'Italie, le pape. Montalembert proteste par son article « Pie IX et la France » en 1849 et en 1859. Et le pape proteste également par une encyclique que reproduit évidemment l'univers de Louis Veuillot. Et du coup, Louis Veuillot peut connaître quels sont les bienfaits du régime impérial. L'univers est supprimé. Alors, le correspondant, journal correspondant, qui est l'organe de Montalembert, continue de défendre avec énergie le pouvoir temporel du pape, chose étrange. Et Montalembert, répondant à Cavour, le libérateur de l'Italie, qui veut faire de Rome la capitale, justement, de l'Italie sous le roi Victor Emmanuel, déclare « Grâce à Dieu, votre politique n'est pas la mienne. Vous êtes pour les États centralisés, et moi je suis pour les petits États indépendants. » Une Église libre au sein d'un État libre, voilà pour moi l'idéal. Dans un sens, il a raison, mais à mon avis, il avait tort, parce que ce qu'il fallait pour le pape, c'est un petit État, très petit, comme on a aujourd'hui le Vatican. Ça suffit. Pour se distraire de la politique, Montalembert entreprend un voyage à travers l'Europe, et puis il parcourt la France, la Bavière, l'Allemagne, la Hongrie, la Pologne, il revient en Écosse, dans les Hébrides, en Angleterre. Il finit par l'Espagne. Son séjour le plus long est en Bavière, où il peut s'entretenir à l'aise avec l'historien catholique Döllinger, qui était très important à l'époque. Et son voyage, d'ailleurs, est un voyage d'études. Puis là, il conçoit le dessein d'écrire l'histoire de Saint-Bernard. Ses travaux d'approche sur les moines bénédictins comprennent d'abord deux volumes, puis là, finalement, il abandonne son Saint-Bernard, puis compose ses fameux moines d'Occident en 7 volumes remplis. Ça occupe les 20 dernières années de sa vie. Le 20 et le 21 août 1863, il y a un congrès catholique qui réunit à Malines. On entend deux discours de Montalembert, qui a 53 ans à ce moment-là. Des discours qui vont avoir un retentissement considérable, parce que Montalembert a marqué une distinction essentielle entre l'intolérance dogmatique et la tolérance civile. L'une nécessaire à la vérité éternelle, le dogme, et l'autre nécessaire à la société moderne, la liberté. Il insiste sur la nécessité de la soumission absolue à l'Église, à son chef en matière de dogme, mais d'autre part, Montalembert réclame, en hurlant pour ainsi dire, il réclame pour tous la liberté de conscience. Il déclare quelque chose qui est très audacieux à l'époque chez les catholiques, et pourtant aujourd'hui tout le monde pense comme ça. J'éprouve une invincible horreur pour tous les supplices et toutes les violences faites à l'humanité sous prétexte de servir et de défendre la religion. Les bûchers allumés par une main catholique me font autant d'horreur que les échafauds où les protestants ont immolé tant de martyrs catholiques. Alors, ce libéralisme est applaudi par toute la Belgique, voire par le roi Léopold, mais le cardinal conservateur Wiseman, en anglais, et surtout le nonce de Bruxelles, Ledochowski, polonais, montre au contraire une réserve significative. Eux, ils aiment pas qu'on parle comme ça de l'Église. Ils savent que la doctrine de Montalembert sera dénoncée au Saint-Office, parce que Saint-Office était bien sévère à l'époque, et censurée plus ou moins directement. Et justement, va paraître bientôt l'encyclique Quanta Cura, puis le fameux syllabus qui est épouvantable, qui condamne la thèse de Montalembert, comme le Vatican s'est mis le doigt dans l'œil quelquefois avec ces personnages étranges qui hantent les corridors là-bas. Et je dis la thèse de Montalembert, sous réserve que Montalembert ne soutenait pas proprement la thèse qui a été condamnée, c'est-à-dire la liberté de l'erreur, mais simplement l'hypothèse, c'est-à-dire la liberté de conscience, liberté des errants, au point de vue légal, dans des circonstances où se trouvait la société. C'est d'ailleurs Mgr Dulce, je vous ai fait une émission sur lui le 6 novembre 96, Mgr Dulce, qui était un homme remarquable, il a écrit dans le correspondant le journal de Montalembert, un théologien qui ferait l'analyse impartiale des discours de 1863 pour les comparer aux documents du Saint-Siège, à l'encyclique Quanta Cura de Pie IX, à l'encyclique Immortalia Dei de Léon XIII, aurait peine, croyons-nous, il dit bien, à extraire des pages de l'orateur Montalembert une seule proposition contraire aux enseignements pontificaux. L'encyclique n'en paraît pas moins dirigée contre Montalembert. Mais lorsque l'évêque d'Orléans, Mgr Dupanloup, la commente dans une brochure que Rome se garde de désavouer, Montalembert retrouve la paix de sa conscience. Il est donc défendu par des grandes autorités comme Mgr Dupanloup, Mgr Dulce. Mais la paix n'est troublée que par l'annonce d'un concile écuménique au Vatican. Montalembert a peur à cette définition du dogme de l'infaillibilité pontificale. Je vais vous lire ça tout à l'heure, c'est extraordinaire. C'est incroyable ce qui s'est passé à cette époque. On n'a pas idée de l'étrange Église catholique à l'époque. Je dis l'Église catholique, certains catholiques dans l'Église. C'est incroyable, c'est triste à mourir. Mais il faut le savoir pour comprendre. Alors on annonce un concile écuménique qui semble être de l'extrême droite. Et Montalembert est très inquiet. Il s'effraie de voir la pensée de certains textes du Vatican transformée en article de foi. Alors, il engage ses amis, notamment Mgr Dupanloup, puis Döllinger, à soutenir envers et contre tous la cause de la liberté. Montalembert souffre surtout d'entendre les flatteries adressées à cet étrange pape qui était Pie IX par l'univers de Louis Veuillot, très conservateur, et par certains évêques ultramontains, comme on disait, des évêques tellement centrés sur Rome qu'ils n'ont aucun sens de leurs propres idées. C'est le moment où une espèce d'étrange prélat, disons un pieux prélat pour être poli, met sur le même rang, imaginez, la dévotion au pape et la dévotion à la Sainte Eucharistie. C'est un peu gênant. Ça existe encore aujourd'hui, je vois ça des fois. Ou Monseigneur Mermillot, il s'appelle comme ça, Monseigneur Mermillot, prêche sur les trois incarnations du Fils de Dieu, dans le sein d'une Vierge, dans l'Eucharistie, puis dans le vieillard du Vatican. C'est étrange. Parce qu'il y a des papes qui sont très étranges, il faut dire. C'est pas tous des Jean-Paul II. Actuellement, nous avons vraiment un pape remarquable. On en a eu des papes remarquables aussi depuis plusieurs années. Montalembert n'y tient plus. Dans une lettre à un avocat de Paris, qu'il a la malencontreuse idée de publier dans la Gazette de France, en 1870, il fonde sur ces théologiens laïcs et autres partisans de l'absolutisme qui, dit-il, immolent la justice, la raison et l'histoire en holocauste à l'idole qu'ils se sont érigés au Vatican. Faut pas faire du Vatican une idole, hein? C'est ça qu'il veut dire. Son invective ne vise dans sa pensée ni la personne du Saint-Père, c'est sûr, ni la majorité des évêques, ça c'est sûr. Elle s'adresse uniquement aux ultras qui se flattent de voir le Concile Vatican I là, sanctionner et renforcer le fameux syllabus et qui réclament la définition de l'infaillibilité papale. Écoutez ça, c'est pas possible, c'est incroyable qu'on ait pu penser des choses comme ça. L'infaillibilité papale comme infaillibilité absolue, inconditionnelle, illimitée, universelle. Comme si le pape disait « demain il va pleuvoir », il fallait le croire. C'est invraisemblable. Comme il écrit, ce n'est pas l'infaillibilité du pape en matière de foi qui me répugne à moi, dit Montalembert. Ce n'est que son omnipotence sur les questions d'un autre genre, comme politique, science, etc., que certains fanatiques cherchent à ériger derrière son infaillibilité dogmatique. Qu'on cesse de s'imaginer que le dogme de l'infaillibilité pontificale, tel qu'il a été énoncé, recouvre tous ces domaines-là. Pas du tout. L'infaillibilité pontificale n'est exercée que très, 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 très rarement. En somme, l'infaillibilité, telle qu'elle est définie au Concile du Vatican, n'offre rien qui répugne à l'intelligence puis à la foi, finalement, de Montalembert. En tout cas, avant de mourir, il fait profession de se soumettre à toutes les définitions que prononcerait le Concile. Et il meurt le 13 mars 1870, puis il est inhumé dans le cimetière de Picpus à Paris. Et sur sa tombe, on lit ces mots « Hic requiescit expectans resurrectionem bonus miles Christi carolus de Montalembert ». C'est-à-dire « Ici repose, en attendant la résurrection, le bon soldat du Christ » Charles de Montalembert. Il a dit, c'est rapporté par Jacques Leuve dans cet immense ouvrage de Jacques Leuve, Histoire de l'Église par elle-même. Il rapporte un discours prononcé en 1831, quand il n'avait que 21 ans, ce Charles de Montalembert. Il dit, « Il me sera impossible de jamais regarder l'instruction et l'éducation de l'enfance autrement que comme liée intimement à la religion. » La foi que je professe, la tradition de l'Église à laquelle j'appartiens, m'ordonne de les regarder ainsi, et l'histoire moderne tout entière vient à l'appui de cet ordre. C'est un livre intéressant, ça, de Jacques Leuve, l'histoire de l'Église par elle-même, paru chez Fayard, c'est un gros bouquin.